Alors, je vais vous parler du Sacré-Cœur. Bon, j'ai deux raisons à ça. D'abord, c'est la dernière fois qu'on a fait une adoration du Saint-Sacrement. Ah ben, il y a Mounia aussi qui est là. Il y a deux. Bonjour Mounia. Bonsoir Mounia. La dernière fois qu'on a fait une adoration, je vous avais un tout petit peu parlé, si vous vous souvenez, de l'heure sainte, ce que Jésus demande à Sainte Marguerite Marie. Donc de faire ce que les apôtres ont eu du mal à faire le soir de l'agonie. Comme on refait une nuit d'adoration, je me suis dit que c'était pas plus mal de développer ça. Et puis bon, bah, on est à Montmartre, hein, donc basilique du Sacré-Cœur. C'est pas pour rien que Montmartre est un des hauts lieux de l'adoration eucharistique, même perpétuelle, à Paris, en France. Donc bon, j'ai joué cette carte-là, et puis... C'est comme ça, voilà. Donc, alors, je vais vous faire une espèce de petit parcours historique et spirituel, mais sans prétention, hein. J'ai pas vraiment de thèse, j'ai pas vraiment de conclusion. Je m'arrêterai quand j'en aurai marre, ou quand le bruit des ronflements couvrira mes propos. Alors d'où ça vient finalement cette spiritualité du Sacré-Cœur qui à la fois, c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois une spiritualité, donc on peut dire avec une manière de suivre le Christ, avec une manière de prier, avec des prières propres, enfin. Mais il y a aussi quelque chose de très doctrinal dans le Sacré-Cœur, c'est ça qui est intéressant, il y a vraiment ces deux aspects-là. D'où ça vient? Alors, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, il y a un verset et un seul qui parle explicitement du cœur de Jésus. Est-ce que vous voyez... Alors, tu as à la fois raison et pas raison. Tu as raison au sens où c'est, à mon avis, effectivement le lieu scripturaire, je vais en parler. D'origine du Sacré-Cœur, mais le mot cardia n'apparaît pas. C'est le mot côté. Mais il y a un endroit où, là, pour le coup, cardia apparaît. Voilà, bravo. Alors, ça, c'est Matthieu 11. Hein, c'est ça, faut se souvenir de ça. Venez à moi, c'est très très beau. Hein. Il reprend des choses qu'il y a dans le Siracide, hein, où on parle du joug de la loi, qui est un joug bienfaisant, mais alors. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Alors c'est le fardeau de la vie, hein, ça, moi, je pourrais vous en dire beaucoup. Hein, c'est peut-être aussi... Pourquoi vous riez? C'est vrai, hein, c'est pas... J'ai pas facile tous les jours, hein. Je vous en parlerai un jour. C'est le fardeau de la vie, hein. C'est le fardeau de l'âge. Mais c'est aussi peut-être le fardeau de la loi, auquel cas Jésus se poserait comme une autre manière d'accomplir la volonté de Dieu, alors qui passe pas par le poids des commandements. Donc venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos, car je suis... Voilà, car je suis doux et humble de cœur. Alors bon, c'est merveilleux cette phrase, hein, c'est une des phrases, je trouve, les plus touchantes de l'Évangile. Mais effectivement, c'est peut-être pas à partir de ce lieu-là que la spiritualité du Sacré-Cœur s'est construite. Non que ce soit hors sujet, mais c'est plutôt, quand on regarde un peu dans la tradition de l'Église, c'est plutôt à partir du lieu... dont parlait Marie, à savoir Jean 19. Ce qu'on dit, c'est la transfixion de Jésus. Donc vous voyez le passage, hein, Jésus est crucifié, donc il y a les trois dernières paroles de Jésus. Il y a sept paroles du Christ en croix. Il y en a une, c'est la même chez Matthieu et Marc, c'est Lama Eloi Eloi, Lama Sabachthani. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y en a trois chez Saint Luc, Alors ça doit être Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En tes mains, je remets mon. Enfin, plutôt aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et le psaume 30, entre tes mains, je remets mon esprit. Il y en a trois chez Saint Jean. Alors, est-ce que vous en souvenez? Alors, il y a tout est accompli, voilà. Ça, c'est. J'ai soif. Et voilà, et voici ta mère et. Enfin, voici. Pardon, voici ta femme, voici ton fils et voici ta mère. Voilà. Alors, on est donc dans le contexte joannique, avec ces trois paroles, et immédiatement après que Jésus a dit, donc tout est accompli, il remet l'esprit, ce qu'on appelle la Pentecôte, il y a une espèce de Pentecôte sur la croix, c'est assez bizarre chez Saint Jean. Saint Jean, il fait vraiment rien comme les autres. Donc il rend l'esprit, mais c'est quasi il souffle, il souffle l'esprit. Et puis il y a voyant qui, alors vous vous souvenez, donc on dit on veut leur casser les jambes pour hâter la mort, puisque vous connaissez le mode, c'est par étouffement. Donc tant qu'on peut prendre appui sur les jambes, on reprend un peu de souffle. Si on casse les jambes, ben, du coup on meurt beaucoup plus vite. Mais voyant que Jésus était déjà mort, donc on ne lui casse pas les jambes, mais comme c'était permis par la coutume romaine, les condamnés peuvent servir d'entraînement pour le lancement du pilium, c'est ça, comme ça, du pilium, pilium, c'est ça. Donc la lance, alors bon, je ne sais pas comment ça se fait, mais enfin on lance le truc, la lance, et ils s'entraînaient comme ça, donc sur les condamnés. Donc il y en a un qui lance, donc c'est pas de la méchanceté, enfin ouais, non, c'est pas qu'il en avait, non, ça faisait comme ça, quoi. Les cadavres pouvaient servir aux soldats romains pour s'entraîner. Alors, ils transpercent le cœur de Jésus. Alors, le côté de Jésus, pardon, c'est justement pas cœur, c'est pleura. Et il en sort du sang et de l'eau. Alors, les pères de l'Église, mais peut-être sans doute, moi j'aurais tendance à dire que déjà Saint Jean a ce symbolisme en tête. Pourquoi c'est le côté, justement? C'est que il y a une allusion à la création de la femme, qui, je vous rappelle, Dieu n'a pas créé Ève, hein, ça c'est. La femme ne reçoit son nom qu'après la chute, donc Dieu a créé la femme, qui n'a pas de nom, dans la Genèse, et en Genèse 2, la femme est créée, donc Dieu ouvre le côté, alors on sait où est-ce que c'est, donc. Tselem, je crois, c'est. Non, c'est pas Tselem, c'est Etzel, je sais pas comment c'est. Etzel, je crois, en hébreu. Donc il ouvre le côté. Bon. Et puis il façonne une femme du côté du côté d'Adam. Et il y a le cri d'admiration d'Adam. Donc pour le coup, celle-ci. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair, elle sera appelée. On n'a pas les bons mots français, quoi. Elle sera appelée Isha, puisqu'elle a été tirée de Ish. Alors, il y aurait une allusion ici, c'est-à-dire que dans la mort de Jésus, Saint Jean contemple une nouvelle création. La création, alors, du nouvel Adam, si on veut, mais on pourrait dire c'est. C'est l'homme qui est en train de ressusciter, c'est ça le nouvel Adam, c'est Jésus, mais habité par une vie sans commune mesure avec celle que nous éprouvons sur cette terre et qui est quand même marquée par bien des souffrances. Je pourrais vous en parler hein, aussi. Donc, et la femme, alors ça serait donc cette compagne pour le Christ. Mais cette figure féminine, ça serait donc l'Église. Et les pères de l'Église donc vont développer cette thématique en disant, mais justement, ce qui coule du côté ouvert de Jésus, le sang et l'eau, ça fait penser aux deux sacrements fondamentaux dans l'Église, le baptême et l'Eucharistie. C'est des sacrements qui fabriquent l'Église d'une certaine manière. Le baptême, parce que on fabrique un nouveau chrétien en le baptisant, donc c'est l'accroissement de l'Église. Et puis l'Eucharistie, c'est que C'est quoi? C'est la pulsation cardiaque. Je prends à nouveau cette métaphore, mais c'est la nourriture, c'est le pain quotidien. Enfin, voilà, c'est l'Église vit à mesure de l'Eucharistie. Quand il n'y a plus d'Eucharistie, il n'y a plus d'Église au fond. C'est l'Église qui fait l'Eucharistie, mais c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Et donc, à travers, dans une optique sacramentelle, les pères discernent dans le récit de Saint Jean, du côté ouvert de Jésus, la création de l'Église. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette Église, donc à travers les sacrements, baptême et Eucharistie, ça vient d'un côté, maintenant je vais dire cœur, même si le mot cœur n'apparaît pas dans le récit, je vais quand même l'employer. Ça vient d'un cœur qui est ouvert et d'un cœur qui est blessé. Ce qui est, vous me direz, un cœur qui est ouvert est forcément blessé, mais les mots ouvert et blessé, ce n'est pas tout à fait le même sens. Ouvert en soi, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de blessé, oui. Alors évidemment, c'est ça le mystère. Finalement, on peut dire tout est là. Pourquoi est-ce que l'Église, donc c'est un autre mot du salut finalement, parce que si on est l'Église, c'est le salut que Dieu donne aux hommes, et on reçoit le salut dans la mesure où on est intégré dans l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église est tirée d'un cœur ouvert et d'un cœur blessé? La spiritualité et la doctrine du Sacré-Cœur ne cessent de méditer ce mystère. Et on pourrait même dire, c'est encore plus surprenant d'ailleurs, d'un cœur mort. Enfin, ça, vraiment, on est dans le. L'Église naît d'un cœur qui ne bat plus, mais qui laisse couler le sang et l'eau. Alors, je vous ai mis, commençons donc notre petit parcours historique par en un sens, le plus grand des pères de l'Église, Origène. Je vous l'ai dit mille fois, je vous le redis mille une fois, quand on vous. Si vous ne savez pas quelle est l'origine d'un mot chrétien ou d'une idée chrétienne, dites Origène, vous avez 9 chances sur 10 que ce soit vrai. Il a tout inventé, tout vient de lui. Donc Origène, hein, c'est 185, on ne sait pas très bien, et il est mort en 254. Va essayer de méditer ce caractère violent quand même, hein, de l'Église qui est tirée d'un cœur ouvert, d'un cœur blessé par une lance. Alors lui, il dit le cœur a été frappé, et il cherche dans l'Écriture sainte un autre endroit où le fait de frapper une réalité a produit un épanchement d'eau. Et très naturellement, il va penser à un épisode qui est raconté d'ailleurs 2 fois dans la Torah, qui est le rocher qu'on frappe, on a soif, et le rocher est frappé par Moïse, et il en coule de l'eau. Alors voilà ce qu'il dit, c'est le premier texte que je vous ai mis, c'est très court, dans l'homélie sur l'Exode. Ce rocher, s'il n'est pas frappé, ne donnera point d'eau. Alors ce rocher, c'est le Christ, hein, c'est ce que dit Saint Paul dans la première aux Corinthiens. Assimiler, enfin plutôt voir dans le rocher de Moïse une préfiguration du Christ, c'est déjà ce que fait Saint Paul dans la première aux Corinthiens. Allez voir au chapitre 10, je crois, vous trouverez ça. Ce rocher, s'il n'est pas frappé, ne donnera point d'eau. Frappé, il fait jaillir des sources. Car le Christ, frappé et mis en croix, a fait jaillir les sources du Nouveau Testament. C'est pourquoi il est dit de lui, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. En citation de Zacharie, qui est cité dans les récits de la Passion, chez saint Matthieu par exemple. Il fallait donc qu'il fût frappé. S'il n'avait été frappé et s'il n'était sorti de son côté de l'eau et du sang, nous endurerions tous la soif de la parole de Dieu. Alors on voit comment pour Origène, il y a tellement de concentration biblique, d'allusions, il va chercher Amos, il y a une allusion à l'Exode évidemment, à Zacharie, la soif de la parole de Dieu, certainement il a en tête. La parole du Christ en croix, j'ai soif, donc ça lui fait penser, on a soif de Dieu, comme le Christ a soif de nous, nous on a soif de Dieu. En tout cas, ce qui me paraît important dans ce passage, c'est que d'une certaine manière, il répond, ou il répond, enfin en tout cas, il soulève la question, mais pourquoi est-ce qu'il fallait que le Christ meure finalement? Pourquoi est-ce que un message porté par Jésus, des miracles, des preuves d'amour. Hein. Jésus, il nous a donné comme plein de preuves d'amour hein, quand il a guéri des gens. On voit bien, ça nous touche toujours beaucoup. Donc, pourquoi ça ne suffit pas? Pourquoi est-ce qu'il a fallu aller. Il fallait être frappé, il fallait qu'il soit frappé pour donner de l'eau. Et en gros, Origène, il se dit, mais à ceux que le mystère de la mort de Jésus surprend, à ceux qui sont surpris par la mort de Jésus, il a fallu que Moïse frappe le rocher, donc c'était déjà prévu finalement. Il fallait, pour étancher la soif et la vraie soif de l'homme, bien plus que l'eau, enfin, l'eau matérielle, ce dont l'homme a soif, c'est la parole. Il fallait qu'il y ait ce choc. Alors saint Augustin va reprendre donc cette idée de toujours pareil hein, du côté de l'Église qui sort du côté ouvert. Alors pour Origène, c'est la parole de Dieu qui sortait du côté à travers l'eau. Et la parole, peut mettre les sacrements. En tout cas, en plus chez Origène, c'est la parole est tout, enfin, est toujours liée au sacrement. Chez saint Augustin, c'est encore plus clair. Ce que je vous disais tout à l'heure, mais il n'est pas du tout original quand il fait ça. Et saint Augustin, lui, va être frappé par une traduction latine du récit donc joannique, où normalement il y a un soldat romain lui perce ça en grec, c'est énuxène, ça doit être un aoriste, je pense, perce ça son côté, mais dans la Vulgate, c'est apéroïte. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Tiens, je sais pas pourquoi d'ailleurs on n'a pas traduit. Percer un cœur et ouvrir un cœur. Et lui, cette fois, il va, toujours dans cette méditation sur les biens du salut sortent du cœur de Jésus, que ce soit l'Église, que ce soit la parole, que ce soit les sacrements, c'est toujours la même chose. Le salut sort du cœur ouvert de Jésus. C'est le salut qui en sort, voilà. C'est le salut qui sort du cœur percé de Jésus. Lui, plutôt que de faire jouer la typologie de l'Exode avec frappé, cœur ouvert, donc cœur frappé c'est Origène, Augustin c'est plutôt cœur ouvert. Et il va faire un rapport avec l'arche de Noé. Il va dire, mais cette fois c'est pas le rocher qui préfigurait l'ouverture du cœur, le rocher frappé, c'est plutôt l'arche de Noé et l'arche ouverte pour accueillir des hommes et des bêtes. Alors c'est le texte numéro 2 que je vous ai mis. Un des soldats, alors il reprend l'évangile de Saint Jean, un des soldats lui ouvrit apéroïte le côté avec sa lance. L'évangéliste a été attentif au choix du verbe. Oui, pas de bol, c'est une mauvaise traduction, mais enfin bon. Il connaissait mal le grec, hein, donc on lui pardonne bien. Il n'a pas dit il frappa, il blessa le côté ou rien d'analogue, mais il ouvrit. Admettons, il voulait indiquer qu'à cet endroit, pour ainsi dire, était ouverte la porte de la vie, par où se sont écoulés les sacrements de l'Église, sans lesquels on ne peut entrer dans la vie, dans la vraie vie. Ce sang a été répandu pour la rémission des péchés. Cette eau se mélange à la coupe du salut, mais elle est à la fois un breuvage et un bain. Donc là, on retrouve la typologie. Breuvage, c'est l'Eucharistie, et bain, c'est le baptême. Ce mystère était annoncé à l'avance par la porte que Noé, ah oui, bien sûr, on y a tous pensé, par la porte que Noé reçut l'ordre d'ouvrir dans le flanc de l'arche, côté de Jésus, côté de l'arche ouvert, côté de Jésus ouvert. Bon, tout ça, c'est vraiment de la typologie, vous êtes en pleine exégèse patristique, hein, donc ça peut vous surprendre, mais il fonctionne toujours comme ça, hein, par ces espèces de similitudes. Parfois, elles nous paraissent un peu artificielles, mais bon, c'est comme ça qu'ils font. Donc, ce mystère était annoncé à l'avance par la porte que Noé reçut l'ordre d'ouvrir dans le flanc de l'arche, afin d'y faire pénétrer les êtres vivants qui ne devaient pas périr dans le déluge. Donc, c'est Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, et puis tous les animaux, donc sauf les poissons. Ils étaient la préfiguration. Ah non, mais c'est rigolez pas! C'est très important parce que parce que dans la mer, il y a Léviathan et Béhémoth. Il y a le principe du mal. Et dans l'Apocalypse, on dit que dans la nouvelle création, il n'y aura pas de mer. Ben oui, parce qu'il n'y a plus le mal, les bêtes. Mais non, mais les méchants, je vous l'ai dit quand je vous ai parlé de l'Apocalypse, les bêtes, elles viennent de la mer. Faut faire... Moi, je suis très... Moi, attention, hein, faut pas aller... Tout le monde va des vacances à la Côte d'Azur ou en Bretagne, c'est une très mauvaise idée. Les bêtes viendront de la mer. Hein, c'est les, donc, Alors, les animaux entrent dans l'arche. Et alors, saint Augustin termine, ils étaient la préfiguration de l'Église. Magnifique texte d'Augustin, et qui il me semble introduit un thème important, complémentaire de ce qu'avait déjà dit Origène, c'est que en fait, un cœur ouvert, c'est à double sens. On voit d'abord ce qui sort du cœur, parce que l'évangile de saint Jean insiste là-dessus. Mais une fois que le cœur est ouvert, on peut y entrer. Et on y entre, donc. On y entre par quoi? Ben précisément par ce qui en sort, c'est-à-dire les sacrements de l'Église. Alors là commence d'être ébauché un thème qui ne cessera plus d'être exploré par la spiritualité du Sacré-Cœur, c'est celle de la circularité entre l'amour de Jésus pour les pécheurs et qui atteint son sommet, ben justement. Dans sa mort, hein. C'est puis dans l'eau et le sang qui coule. C'est Édouard Glotin, un père jésuite, un grand, grand spécialiste du Sacré-Cœur, qui, je crois que c'est le premier qui insiste, j'ai jamais vu personne d'autre insister là-dessus, il dit, c'est très important que les dons les plus, enfin comment dire, que les dons suprêmes de Jésus arrivent après sa mort, parce que ça veut dire que la logique du don, elle n'est pas arrêtée par la mort. Vous voyez? Ça, je trouve ça merveilleux. Jésus nous aime tellement qu'il continue de nous donner quelque chose. Son cœur continue de nous donner quelque chose alors qu'il ne bat plus. C'est bouleversant, en fait. Et on comprend pourquoi est-ce que du coup on peut dire... Ça, c'est très joannique, mais sur la croix, Jésus est déjà dans la gloire, en fait. Et il donne l'Esprit Saint, enfin, il rend l'Esprit, enfin, c'est en mourant, c'est la Pentecôte joannique, cette fameuse... Pentecôte joannique, donc le don amoureux de Jésus pour les pécheurs est tellement puissant que la mort n'arrive pas à y mettre fin. Mais à l'amour de Jésus doit répondre notre amour, amour pour amour. Et de même que Jésus nous a, en nous donnant sa vie, en nous donnant l'eau et le sang, c'est-à-dire c'est les sacrements. C'est-à-dire l'Église, finalement, en vous donnant l'Église. C'est sa compagne, c'est celle qu'il aime. Enfin, c'est nous. Il nous invite à entrer dans l'Église et donc à entrer dans son cœur. Et à répondre à son amour par un amour idéalement aussi puissant. Enfin, il ne l'est jamais complètement, hein, même chez les plus grands saints, mais enfin, c'est vraiment amour pour amour. Donc, vous voyez, avec saint Augustin. Apparaît ce terme, ce thème de la circularité entre l'amour de Jésus pour le pécheur et l'amour du pécheur pour Jésus. Cœur ouvert. Alors vous connaissez cette locution latine d'admirabile commercium. Alors, commercium, c'est nous, on pense commerce tout de suite. On est là, bon, tiens, non, tu vas pas me les faire à 10 euros quand même. Tout de suite, des petites tractations mesquines. Non, c'est plutôt échange, hein, cet admirable échange. Admirabile commercium. Encore, quand Saint-Thérèse d'Avila dit la prière, c'est un commerce avec Dieu. C'est pas tellement, c'est pas eBay, hein, c'est pas, c'est plutôt un échange d'amour. Alors, bon, en gros, avec Origène et Augustin, je vous ai, là, vous avez la base, le début, cette spiritualité du Sacré-Cœur, alors même que le mot de cœur n'est pas forcément très présent. Il n'est pas chez saint Jean. Il apparaît, je sais même pas s'il apparaît chez saint Augustin, d'ailleurs. On garde le côté côté. Mais la spiritualité du Sacré-Cœur est déjà là, je dirais, dans son fondement dogmatique, qui est exactement celui que je vous ai dit. En fait, c'est très simple, cette histoire-là. C'est de dire, mais tout ça pour ça, oui, mais bon, bah, oui. Donc, voilà, le don de Jésus pour nous, qui nous fait entrer dans son cœur. L'Admirabile Commercium. À partir du Moyen Âge, la spiritualité du Sacré-Cœur va cette fois très consciemment et lucidement intégrer le vocable du cœur. Mais elle existait déjà avant, c'était la spiritualité du côté, mais c'était la même en fait, hein. Pourquoi est-ce que, qui est l'artisan, disons, de cette évolution terminologique, mais qui correspond aussi à une maturation de la doctrine du Sacré-Cœur? Je suis sûr que vous avez tous la réponse sur les lèvres. C'est évidemment Saint Bernard. Puisque c'est vraiment l'apport, toute la spiritualité bernardine. On nous dit c'est le dernier des pères de l'Église. Bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai qu'il reste encore habité, notamment par Saint Augustin. Mais il vient donner les choses dans. Il reprend tout cet héritage patristique dans un climat affectif qui est typique du Moyen Âge, du début du roman, hein. Toute cette histoire est très liée à l'amour courtois. Enfin, c'est un phénomène de culture, mais aussi phénomène spirituel et intellectuel. Et c'est à ce moment-là que, bah, précisément, la spiritualité du Sacré-Cœur devient plus affective. Et peut-être aussi plus, j'allais dire plus priante, je sais pas, c'est ce qu'il faut dire, les pères de l'Église, mais enfin, oui, elle devient plus mystique. Voilà, peut-être, je sais pas, c'est le bon mot. Je sais pas, c'est le bon mot. Enfin, et bizarrement aussi, elle va commencer à devenir très féminine, parce qu'après, c'est plus que des femmes en fait, hein, au deuxième millénaire. Donc, premier millénaire, c'est enfin, jusqu'à Saint Bernard, c'est des hommes, puis après, c'est quasi plus que des religieuses. Alors, Saint Bernard, comment dire, faire mûrir, enfin, développer cette spiritualité, bah, avec le Cantique des Cantiques, hein, qu'il a beaucoup commenté. Il en a fait d'ailleurs le lieu, c'est lui aussi un des artisans de cette interprétation mystique, Origène avant lui, hein, les pères de l'Église, quand ils faisaient de la mystique, ils préféraient partir de l'ascension de Moïse sur le mont Sinaï, parce qu'ils montent dans l'obscurité et ils montent vers Dieu, et puis le thème de l'ascension, ça colle très bien avec l'échelle mystique. Si vous Grégoire de Nyssa, par exemple, la vie de Moïse, c'est pas du tout une biographie de Moïse, hein, c'est un traité de vie mystique, donc les degrés d'union à Dieu. Mais Saint Bernard, précisément avec ce tournant affectif, amoureux, hein, je sais pas, oui, enfin amoureux, affectif, c'est avec lui que du coup le cantique devient le langage privilégié de l'union à Dieu, à tel point qu'on va dire l'union, la perfection de l'union à Dieu par la prière, par l'horizon, c'est le mariage mystique. Alors que Moïse qui monte au sommet du Sinaï, il n'y a pas trop la dynamique du mariage. Ouais, c'est plutôt, on voit bien, mais ça a l'air de rien. Mais avec ça, vous avez les deux millénaires. Hein. L'ascension de Moïse, donc c'est une spiritualité plutôt virile. Hein, on monte les étapes. Bon, avec Saint Bernard, c'est autre chose. C'est autre chose. Et alors, quel verset va le frapper? Ben précisément, Cantique 4-9. Alors. Vous l'avez tous sur les lèvres, non, là j'exagère, parce que je n'aurais pas été capable de dire. Pourtant, j'ai fait un séminaire sur le cantique, mais c'est un verset où. Donc c'est Salomon, hein, qui dit à Shlomit, je vous ai fait quand même une causerie sur le cantique. Hein, où, alors c'est un peu bizarre le cantique, hein, c'est pas si simple. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a cinq tableaux, puis il y a une espèce d'intrigue bizarre au troisième tableau, enfin c'est un peu. Au quatrième plutôt. Où il y a une rencontre ratée, puis après il y a la fiancée qui s'en va, et puis elle se fait rattraper par la police, elle n'a pas son masque, elle n'a pas d'attestation, du coup il cogne dessus. Enfin, et alors, bon, il y a un moment donné où Salomon dit à la fiancée, tu as blessé mon cœur, ma sœur fiancée, tu as blessé mon cœur. Alors ça frappe beaucoup Saint Bernard, parce qu'il dit, mais donc la blessure n'est pas qu'une violence. Et peut-être même que le centurion, je vous dis, ce n'était pas le mauvais bougre, hein, il s'entraînait. Hein. Enfin, recevoir un pilium dans le corps, c'est une violence, de toute manière. Mais peut-être que si Dieu a providentiellement permis cet acte de violence, c'était pour qu'on comprenne que ce qui blesse vraiment le cœur, plus encore que la violence, plus encore que la méchanceté, plus encore que le péché, mais c'est tout simplement l'amour, l'amour tout nu. Tu m'as blessé, mais de quoi tu m'as blessé? Ma sœur fiancée, alors, une expression un peu bizarre aussi, ma sœur fiancée. Tu as blessé mon cœur, ma sœur fiancée, tu as blessé mon cœur. Alors, je vous ai mis un petit passage. Donc là, on est en train ouais, de renverser un petit peu les choses. Je vous ai dit, l'Église née chez les pères, l'Église est tirée du côté ouvert de Jésus. Mais après tout, on peut dire, c'est à la lecture de Saint Bernard, c'est que Jésus aime déjà sa sœur fiancée, qui est l'Église. Et c'est son amour de la sœur fiancée qui ouvre son cœur. Le centurion n'est qu'un instrument dans cette histoire. Alors je vous ai mis un petit texte, c'est le texte numéro 3. Ah non, je ne vous l'ai pas mis, tiens. Oh, c'est pas bien ça. Je vous l'ai mis? Ah non, la Vitis Mystica, c'est pas Saint Bernard, c'est Bonaventure. Ah ben non, je vous ai rien mis, alors mince. Bon, désolé, j'ai raté le truc. Bon, ben tant pis pour Saint Bernard. Mais c'est pas très grave. Parce que, ah ben oui, c'est ça. En fait, la Vitis Mystica, qui est un texte un peu bizarre, on l'a attribué à Saint Bernard, puis après on dit Saint Bonaventure, en fait, on sait pas très très bien. C'est un texte du XIIIe siècle, apparemment. Mais est très bernardin d'inspiration. Et oui, alors du coup, j'ai pris ça, je sais pas pourquoi, j'aurais dû plus vous mettre tout de suite Saint Bernard, mais reprend un peu cette symbolique, mais très bernardine. Donc c'est un long poème, hein, enfin c'est un long poème, oui c'est un poème, c'est une espèce de méditation sur la passion du Christ, c'est splendide dans hein, la Vitis Mystica. Il n'y a pas d'édition critique d'ailleurs si vous cherchez un sujet de thèse. Alors ça pour le coup, ça se vend, après c'est le genre de truc qui est utile pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas d'édition critique de ce texte. Faut se farcir, parce qu'on a une édition pourrie chez Mine, mais il faut se farcir, bon, faut faire un travail de critique textuelle, mais après vous faites ça, traduction, vous faites un doctorat. Magnifique doctorat. Hein. Après les sources, quelles sont les sources? Alors, je vous dis ce petit passage. Donc, ils transpercèrent non seulement les mains, mais encore les pieds et aussi le côté. Et ils perforèrent par la lance de la colère les secrets du très saint cœur, qui déjà avait été perforé par la lance de l'amour. C'est ça. Encore une fois, c'est renversement. Hein. Dans la doctrine du Sacré-Cœur, il n'y a que des renversements. Il n'y a que des admirabile commercium. Le cœur du Christ est blessé depuis le début. Par amour. Si vous acceptez, si vous acceptez pas d'avoir le cœur blessé, en fait, vous acceptez pas d'aimer. Quelqu'un alors qui ira même plus loin que ça, hein, c'est Saint Jean de la Croix avec la mort d'amour. Hein. Voilà, on est en train de toucher une réalité très difficile à préciser, mais le fait que. Parce que les mots sont piégés, parce que pour nous blesser ou mourir, il y a toujours un côté de violence, il y a un côté de mal, il y a un côté de peine, il y a un côté. Mais en réalité, nous vivons dans l'enveloppe de la souffrance, de la peine, quelque chose qui est inhérent à l'amour tout nu, simplement à l'amour, et que sans doute nous aurions vécu sous cette forme pure, quoi, simple, chimiquement simple, de la blessure d'amour ou de la mort d'amour si nous n'avions pas péché. Et dans notre état actuel, nous ne pouvons pas séparer les deux. C'est ça le problème, en fait. Nous ne pouvons pas séparer les deux. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre la blessure d'amour si nous n'avons pas, qui a priori n'est que positive, en fait. C'est ça le problème. Mais le simple fait que nous soyons obligés d'utiliser un mot qui véhicule avec lui des connotations un peu repoussantes, personne n'a envie d'être blessé, personne n'a envie de voir le sang s'écouler hors de son corps. N'empêche qu'on est obligé d'employer ce mot-là, sinon on n'est pas à la hauteur de l'amour. Voilà, ça, j'arrive, c'est ça le Sacré-Cœur en fait. C'est ça le Sacré-Cœur. Si j'essaye d'utiliser, de parler de l'amour avec du lignifiant, je finis dans le politiquement correct en fait. C'est ça, c'est bien lamentable finalement. Ça devient. le seul langage qui est à la hauteur de l'amour, à un moment donné, dans notre état présent de pécheur, racheté, mais de pécheur, c'est un langage qui va finir par rapatrier le langage de la violence, de la guerre, de la ce que vous voulez, enfin, et de la mort. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on tombe dans le. Ça vient du Walt Disney, quoi, en fait. Hein. Enfin, ça vient du surtout soyez gentil. Enfin, ça devient lénifiant, en fait. C'est ce qui m'énerve. C'est bon, vraiment le genre de truc qui m'agace. Non, mais vous comprenez pourquoi je suis agacé. C'est que c'est vraiment une question de. C'est essentiel, en fait. C'est vraiment essentiel. Ça exprime une condition tragique. C'est ça le problème. On voudrait vivre la plénitude de l'amour sans passer par la mort. On voudrait. Et Dieu voulait pas qu'on. Enfin, c'est pas Dieu qui a voulu. Il n'est pas sadique. Mais dans notre condition de pécheresse, il a fait qu'au lieu même de la peine du péché, mais un peu comme un. Je prends une métaphore, mais qui est triviale, quoi. Un peu comme une coquille. Attends, il y a la noix, mais bon, il y a quand même. Vous n'avez pas la coquille si vous cassez pas. Enfin, vous n'avez pas la noix si vous cassez pas la coque. Et donc, il faut. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Et même pour le Christ, en fait. Le Christ aurait pu. Lui, il pouvait nous aimer sans passer par le côté onéreux, puisqu'il n'est pas pécheur, mais pour que nous recevions son amour, et comme pour nous, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, il a voulu que la blessure d'amour, qui est invisible en fait, et puis qui est béatifiante en réalité, mais il a voulu qu'à un moment donné, elle soit extériorisée dans ce coup de lance. Voilà, ça devient très visible, hein. Mais puisque déjà nous sommes venus au cœur du Seigneur Jésus, le très doux, pof! Pourquoi le très doux? Voilà, Matthieu 11, on commence. Comme on a introduit le vocable de cœur, alors qu'au début c'était côté, là on commence à dire, tiens, mais en fait il y a un autre passage où il parle directement du cœur. Je suis doux et humble de cœur. Alors on va se mettre dans la spiritualité du Sacré-Cœur en même temps. Qu'il y a le cœur ouvert, il y a aussi la douceur de Jésus. Jésus est doux. Qu'on n'avait pas du tout à partir de Jean 19, en fait. Hein. Donc, celui qui fera sa thèse là-dessus, hein, n'oubliez pas. Hein, Et qu'il est bon pour nous d'être issus, Matthieu, d'être ici. Alors, ça, c'est la transfiguration. Ne nous en éloignons pas. Nous nous approcherons donc de toi. Alors là, on reprend la dynamique augustinienne. Hein, nous entrons dans le cœur et nous exulterons et nous nous réjouirons en toi. Faisant mémoire de ton cœur. Oh, comme il est bon et doux d'habiter dans ce cœur. Ben oui, ouais, de nouveau les chances. Jésus est doux, mais du coup, c'est doux d'habiter dans le cœur de Jésus, puisque c'est tout doux. C'est tout doux. C'est tout doux, en fait. Le bon trésor, la perle précieuse, c'est ton cœur, ô bon Jésus. Ouais, c'est merveilleux, j'aimerais prier comme ça. Hein. On est quand même des charlots. Enfin, moi, je me dis quand je vois les. Faut que je m'arrête là, dis donc. À quelle heure j'ai commencé? Bon, je termine un peu avec mes religieuses là, parce que là je voulais pas parler des religieuses. Un petit peu plus loin, toujours dans la Vitis Mystica. Qui n'aimerait ce cœur ainsi blessé? Il y a quand même un moment donné où, même si vous avez un cœur dur, hein, comme moi j'ai un cœur très dur, hein, très méchant, je suis l'apôtre d'un Dieu méchant d'ailleurs. Dieu n'est pas que gentil. Mais il y a un moment donné, même si vous avez le cœur dur, quand vous voyez en face de vous le cœur doux de Jésus ouvert, bah, votre cœur fond. C'est ce que nous dit la Vitis Mystica. Et donc vous aimez le cœur qui vous aime. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Qui n'aimerait ce cœur ainsi blessé? Qui ne lui rendrait son amour? Donc, amour pour amour. Échange admirabile commercium. Nous donc, qui demeurons encore dans la chair, rendons-lui son amour autant que nous le pouvons. Embrassons notre Jésus blessé. Alors là, il reprend un vieux thème, qui est le thème du baiser des plaies de Jésus. Alors là, j'avoue que je suis pas assez calé en histoire de l'art, mais. C'est un truc qu'on trouve au Moyen Âge central, mais peut-être avant, ou même façade. Le thème, alors le thème, vous savez comme c'est le sang eucharistique, la plus ancienne représentation de ça par contre je le sais, j'ai étudié ça dans ma thèse, C'est le sacramentaire de Drogon. Alors, c'est pas un personnage du Seigneur des Anneaux, mais c'est un nom carolingien. Donc, ça doit être un moine, ça doit être un conseiller technique aux affaires religieuses de Charlemagne. Et il y a un sacramentaire avec enluminé, enfin avec des. Et donc, c'est la première fois qu'on a le thème pictural du calice qui recueille directement le sang eucharistique du côté ouvert de Jésus. C'est très logique, hein, puisqu'on nous dit le sang qui coule, c'est le sang de l'Eucharistie. On ne veut pas le laisser perdre. Enfin, comment dire, le laisser perdre, ça veut dire il y a quelqu'un qui se donne et on n'est pas là pour prendre ce qu'il nous donne. Vous voyez que donc on ne veut rien perdre du sang de Jésus. Vite, on met un calice. Et après, ce thème-là va même être presque trop, presque être cru, en fait. Enfin, je veux dire, je comprends qu'on peut être. Puisqu'on voit, alors je sais plus, mais on voit des gens qui carrément boivent directement à la plaie. Il n'y a pas un truc de Saint François d'Assise comme ça, si, hein, où Saint François d'Assise directement, peut-être parce qu'il est stigmatisé, je ne sais plus, mais directement boit le sang au côté ouvert de Jésus. C'est violent, hein, quand vous avez cette représentation. Si vous n'êtes pas au courant, ça fait quand même bizarre, hein. Bon, alors on a ça, embrassons notre Jésus blessé. Voilà. Mais embrassons-le là où il est blessé. Là où il est blessé. Pour rien laisser perdre de son amour et pour lui rendre amour pour amour. Et prions pour qu'il blesse notre cœur. De nouveau l'échange, c'est ça le Sacré-Cœur. Tout ce que fait Jésus, on le vit aussi. Et tout ce qu'on fait, il le prend sur lui. Il prend sur lui ce qu'on vit nous et il nous donne de vivre ce qu'il vit lui. Pour qu'il blesse notre cœur dur encore. Voilà. Mon cœur à moi, il est dur. Qu'il le blesse d'une flèche de son amour. Lui, il a eu le cœur blessé par la lance d'un soldat. Et comme il est doux, Jésus, notre cœur, il va juste le blesser de la flèche de l'amour. Alors ça fera peut-être quand même mal un peu, hein, parce qu'on est pécheur, hein, malgré tout. Donc un cœur dur, pour qu'il vienne doux, il faut quand même un petit peu. Alors il tapote un peu, hein, tac, 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 là. Mais c'est un peu comme chez le dentiste, hein, et à un moment donné, levez la main si je vous fais mal, mais à un moment donné, on lève la main, hein, ça fait quand même un petit peu mal, hein, mais c'est la flèche de l'amour, c'est la flèche de son amour. Alors, j'en arrive à mes religieuses. Alors, la première, c'est Sainte Lutgarde. 1182-1246. Alors, ça, c'est une brave femme. Alors, si je me souviens, c'est une femme, elle a eu bien des misères dans sa vie. Hein. Alors là, si je me souviens bien, sa biographie, elle voulait devenir religieuse, mais c'était pas possible dans sa famille. Enfin, je sais plus très bien son histoire, mais c'est bon. Enfin, une sainte, quoi. Puis alors, elle a d'abord été oblate bénédictine. Et puis, coup de bol, y a eu, donc elle ne pouvait pas être religieuse, alors elle était oblate, vous savez, les oblats, donc on est familier d'un monastère. Mais... Et puis, coup de bol, elle peut devenir moniale, et évidemment, moniale cistercienne. Donc là elle est nourrie de la spiritualité bernardine. Hein, et là, ce que nous fait Sainte Lutgarde, toujours pareil, elle précise des choses qui sont déjà chez Origène, au fond, mais c'est ça la tradition, hein, on met des mots sur une réalité dont on vit depuis le début. Et on met des mots plus précis, puis il y en a plus. Hein, mais... Alors, le mot nouveau, enfin, ou. Enfin, le mot. Alors là, d'ailleurs, je suis en train de me dire, peut-être qu'elle. Je ne suis pas sûr qu'elle écrive le mot lui-même. En tout cas, l'idée devient très claire, c'est le thème de la réparation. Réparation pour les pécheurs. C'est-à-dire, dans le mouvement où j'aime le Christ, amour pour amour, oui, mais attends, quand le Christ même, il laisse couler l'eau et le sang pour les pécheurs. Et comme il m'appelle à lui rendre son amour, il faut que dans mon amour, il y ait aussi un amour des pécheurs. C'est-à-dire, je dois aimer le Christ au nom d'eux, à la place, en réparation de tous ceux qui ne rendent pas amour pour amour, parce que ils passent devant le cœur ouvert et puis ça leur fait rien, quoi, en fait. Ça leur fait rien. Alors, pour le coup, bouf, non, c'est. Ils gardent leur cœur dur, en fait. Alors, ça, c'est. Je vous ai mis donc un extrait de la vie de Sainte Lutgarde. C'est pas elle qui écrit, hein, c'est un pieux hagiographe. Il faut un peu se méfier, parce que des fois, on ne prête qu'aux riches, hein, des fois, on enjolive un peu, mais. Alors, donc, il nous raconte donc une espèce d'extase. Ah oui, parce qu'aussi, ce qui est nouveau avec toutes ces femmes, c'est qu'elles ont des visions, des extases. Enfin, ça devient ça devient son et couleur, hein. Enfin, jusqu'à Sainte Marguerite Marie. Hein, c'est... Donc, élevée en esprit, elle vit Jésus. Donc, elle a une vision, enfin, ça, c'est un phénomène repéré hein, chez les mystiques. Hein. Elle vit Jésus, le chef de notre salut, avec ses plaies qui semblaient toutes récentes et sanglantes, debout devant la face du Père et suppliant le Père pour les pécheurs. Il lui dit, donc Jésus dit à Sainte Hildegarde, tu vois comment je m'offre tout entier au Père à l'intention de mes pécheurs. Je veux que toi de même tu t'offres tout entière à moi pour mes pécheurs et que tu détournes la colère qui s'apprête à tirer de vengeance. Voilà ce thème de la réparation. Donc Jésus, dans la dans la doctrine du Sacré-Cœur, mais enfin, vous devez commencer à comprendre que le Sacré-Cœur, c'est le christianisme même en réalité. Enfin, c'est, tout est là. Hein. Jésus nous associe tellement à ce qu'il fait qu'au fond, on devient un peu des petits Christ, puisqu'on est appelé à faire la même chose que lui. Alors, moins bien, hein, quand même. Hein. Mais Jésus a aimé le Père en notre nom, et pour nous, et ben nous, pareil, on est appelé à aimer les autres qui peut-être n'aiment pas assez Jésus. Ben on dit, mais Seigneur Jésus, pour eux. Regarde, moi j'essaye de t'aimer pour eux. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui est très fort dans votre. Moi, je suis plutôt un homme de l'Ancien Testament en réalité. Hein. C'est-à-dire que face à l'impie, j'ai plutôt les paroles du psaume fracasse-lui la tête, que ses petits remets-en une couche pour ses enfants, fracasse la tête de leur bébé contre le roc. Ça me parle en fait. Ça, moi j'aime bien. J'aime bien. Ça me parle. Mais j'ai pas perdu espoir, peut-être sur mon lit de mort, hein, de devenir un homme du Nouveau Testament. Hein. Enfin, priez pour moi. Ben voilà, tiens, vous êtes exactement dans cette situation-là. Je suis pécheur, donc j'arrive pas bien à aimer, donc ben, aimez à ma place, aimez pour moi. Donc alors c'est ça, hein, c'est face au pécheur, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis face au pécheur? Je suis choqué, je suis scandalisé, dégoûté. Tenter, peut-être, je me dis finalement, il n'a pas l'air si malheureux que ça. Si on allait y voir un petit coup, tout en restant pieux, peut-être que après tout, un coup oui, un coup non. Bah, déjà, il y a multiples réactions face à des gens. Vous allez me dire comment on sait que les gens sont pécheurs. Bon, on est tous pécheurs, mais enfin, c'est vrai que parfois, on lit pas dans les cœurs des gens, c'était la lecture de la messe, hein. Seul Dieu sonde les reins et les cœurs, mais c'est vrai que parfois, on peut se dire. Enfin, moi j'ai des noms, hein, si vous me demandez des noms, j'ai des noms en tête. Hein. Pas parmi vous, hein, attention. Alors comment on réagit? Ben, ça nous dit beaucoup de notre état spirituel. Hein. C'est là que je me rends compte que je suis mauvais d'ailleurs, parce que spontanément, je ne suis jamais dans oh, ben, un tel est une pure crapule. Vite, vite, Seigneur, je te prie pour lui. J'ai jamais ce réflexe-là, moi. Je suis vraiment un misérable, en fait. Je m'en rends compte en faisant ce truc, j'aurais pas dû me. Je vais partir en pleurant, en fait. Je suis un homme de l'Ancien Testament. Moi. Mais alors, si vous arrivez à faire ça, je pense que vous êtes déjà, puis vous allez le faire pas. Tiens, Saint-Dominique, hein, Saint-Dominique, qu'est-ce que. Alors, c'est une prière qu'on lui attribue, mais on ne prête qu'aux riches, mais enfin, comme disait Fouché, il ne l'a peut-être pas fait, mais il en était capable. Hein. Il le disait dans un autre contexte. J'adore cette phrase, tous n'ont pas tenu le couteau, mais tous sont réputés capables de l'avoir fait. J'aime bien ce principe de la justice, mais. Bref, alors, donc, la phrase qu'on lui prête, c'est ses prières nocturnes. Vous connaissez, hein? Voilà, bravo, on a prié ça. Plus personne. Il y en a parmi vous qui ont fait le pédé sur les pas de Saint-Dominique? Ah, quand même quelques-uns. On a eu, hein, on a médité cette phrase. Hein, voilà. Moi, je me dis, c'est type, encore une fois, il n'y a pas le mot du Sacré-Cœur, mais en fait, la réalité y est complètement. Alors, redis-y, Faustine. Alors, il y a même, on l'a même chanté, je crois que ça a dû mettre c'est beau, on peut peut-être je pourrais être de façon gouze. Je... Enfin, bref, là, on peut le prier, c'est une belle prière, on chantera une fois, mais. Alors, si vous êtes dans ce réflexe de Saint-Dominique, c'est bien, vous êtes bien parti. Vous êtes bien parti pour être saint. Alors, on peut noter, c'est pour ça que ce qui m'intéresse moins que les mots, c'est la spiritualité. Il n'y a pas le mot cœur hein, dans le récit de la vie de Hildegarde, mais il y a les plaies. Hein, donc, bon, parmi les plaies, il y a le cœur. Et puis la doctrine, elle est là, la question de la réparation pour les pécheurs est là. Et puis, toujours dans la vie de Sainte Flûtegarde, alors toujours une vision, elle a des visions, cette femme. Alors là, encore l'échange des cœurs. Donc là, elle cause avec Jésus. Moi, je pense que j'aurais tellement la trouille d'avoir une vision du Christ que ça me ferait un choc. Je prendrais peu de chances que ça m'arrive. Puis je pense qu'il me ferait des gros yeux. Donc, il vaut mieux que ça n'arrive pas trop tôt. Donc, Jésus parle à Lutgarde et lui dit, mais que veux-tu? En fait, c'est marrant ça, hein, que veux-tu? Comme dans l'évangile, hein, des fois, Jésus, mais il y a un aveu qui vient, et que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je vois? C'est merveilleux là encore, hein, Jésus, il dit, que veux-tu? Il n'arrive pas en disant, je sais ce qui est. Vous savez, ces gens qui savent mieux que vous ce qui est bon pour vous, c'est horripilant. Eh bien non, Jésus n'est pas comme ça, il dit, que veux-tu? Alors Lutgarde, elle répond, alors ça, c'est l'audace, alors ça, c'est merveilleux, ça, je me dis, c'est. Vraiment l'audace de l'amante. Hein. Ce que je veux, dit-elle, c'est votre cœur. Rien, rien de moins. Et le Seigneur, bien plutôt, c'est moi qui veux ton cœur. Admirabile commercium. Du coup, on ne sait plus qui aime qui le plus. Bon, on s'en moque finalement. Puisque c'est l'échange des cœurs qui compte, c'est quand même Jésus qui a commencé. Mais à la fin, on s'en moque complètement de celui qui a commencé, puisque l'amour consiste à échanger tout le temps. Ce que disait la petite Thérèse à cette Marie, Marie, si vous étiez la petite Thérèse et que je fusse la Vierge Marie, je voudrais que vous fussiez la petite Thérèse pour que je sois la Vierge Marie. Enfin, je sais plus comment elle tourne ça. Si vous étiez. Enfin, en gros, elle dit que c'est peut-être. C'est pour nous dire, bon, on est a priori du mauvais côté, puisqu'il y a, on est des pauvres pécheurs, mais qu'en fait, c'est pas grave du tout, puisque le mouvement même de l'amour, c'est qu'on veut prendre la place de l'autre. Donc, finalement, ça n'a aucune importance. À un certain niveau mystique, dans la qualité d'amour de Jésus, le fait que Jésus nous sauve, j'allais dire, on sauve. Enfin, oui, il y a la doctrine de la grâce qui nous dit, mais tout vient de Jésus, toi t'es. Alors il faut commencer par là, hein, il faut humilier les pécheurs, ça c'est la doctrine de la grâce, péché originel, on va dire, les vertus des païens sont des vices, comme dit saint Augustin. Voilà. Ça refroidit un peu l'ambiance. Tu ne peux rien de toi-même sinon le vice. La seule chose que tu tires de ton propre fond, c'est le mal. Ta vraie marque de fabrique, c'est le mal. Bon, on y va un petit peu dans cette ligne-là, ça calme un peu. Mais à un autre niveau, quand on va entrer plus avant dans le salut, cette idée que c'est nous qui sommes toujours débiteurs et que nous sommes toujours dans. Ben en fait, on s'en moque complètement. Pas parce que la doctrine est fausse, mais parce que c'est la logique même de l'amour de se moquer de celui qui a fait la déclaration le premier, parce que l'important c'est qu'on a répondu à la déclaration et qu'on ne cesse d'échanger. Ça, mes amis, c'est le cœur de la réponse catholique. Bah, l'hérésie protestante, hein, je sais qu'il faut plus dire ça, mais enfin l'hérésie luthérienne. C'est-à-dire que l'hérésie luthérienne, elle est restée bloquée sur une vérité, qui est une vérité, hein, de la grâce. Qui est tu es pécheur et tu ne vaux rien, enfin tu n'as aucun mérite, tout vient de Jésus, tu n'as rien fait, c'est lui qui t'a sauvé. Mais elle est tellement restée bloquée que elle s'est empêchée, à partir de cette vérité, d'accéder à ce à quoi cette vérité nous conduit, c'est-à-dire que le Christ nous sauve pour que par amour et pour que nous l'aimions. Et donc Jésus veut recevoir quelque chose de nous, donc on peut pas. Et si je. Dans mon discours, je n'ai que l'humiliation de ce que l'homme produit, y compris son acte d'amour pour Jésus. Pardon, mais vous êtes en dehors de la foi. Dans le cas de la foi catholique, ça c'est certain. C'est certain. Parce que Jésus lui-même attache la plus grande. Il est émerveillé par notre amour. Alors vous allez me dire, mais comment il fait? Mais c'est comme ça, il nous aime, et du coup, il est émerveillé. Même quand on fait des trucs pas géniaux, hein, mais je pense que, comme des parents sont émerveillés, parfois un peu bêtement, hein, ça sert. On trouve ça mignon, puis en même temps ridicule, que leur, je sais pas, leur rejeton, je sais pas, enfin, met une dent, puis ils sont, ah, c'est formidable. Non, enfin, on peut. Oui, ils sont émerveillés. Alors Jésus, il est émerveillé quand on fait une dent. Alors faire une dent, c'est peut-être un tout petit acte d'amour, un tout petit sacrifice, une toute petite prière, mais ça a beaucoup de prix. Jésus a soif de ça. Alors vous voyez, c'est ça la réponse catholique. Il faut la doctrine de la grâce. Et de la grâce, c'est-à-dire de la priorité. On l'a vu avec Pélage, tiens d'ailleurs, que nous a fait notre ami, Jean-Marie, Jean-Marie Salamito. Mais vous voyez que ça ne suffit pas au plan, je dirais, du christianisme vécu. Il n'y a rien à faire, on va pas. Et une bonne partie, à mon avis, du rejet du christianisme, c'est justement quand on n'a plus les mots pour parler de quand même ce qui nous fait vibrer, c'est l'amour, quoi. À un moment donné, c'est rendre l'amour pour l'amour. Alors, vous pouvez le faire comme vous voulez, hein. Moi, je trouve que, avec le Sacré-Cœur, moi, je trouve qu'on y arrive bien. Si vous avez d'autres manières de faire, surtout faites-le. Faites-le comme vous voulez, mais faites-le. Ce que je veux, c'est votre cœur. Et oui, mais moi, en fait, c'est moi qui veux ton cœur. C'est tout est là. Alors, après, deuxième sainte, c'est Sainte Mechtilde. Bon, elles ont toutes des noms bizarres. Hein. Ou des Flamands, ou des Allemands. Alors, Sainte Mechtilde de Magdebourg. Alors, ça, c'est 1210-1282. Elle a une vie un peu comme celle de Sainte Lutgarde. Elle est d'abord béguine. Alors, donc, elle, ça doit être une Flamande. Et pareil, elle va entrer dans l'ordre cistercien. Elle finit voilà, donc toujours à l'école de Saint-Bernard. Hein. Toujours cette influence merveilleuse. Puis c'est français en plus. C'est catholique et français cette histoire-là. Moi, non, mais c'est l'amour courtois. Mais c'est pas pour rien notre plus grand titre de gloire dans l'histoire. Voilà, plus je c'est vraiment le roman. Et le roman est né en France. Le roman moderne est né en France et il est né dans un climat bernardin. Si vous faites, je ne sais pas comment on vous enseigne la littérature médiévale, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Vous ne comprenez rien au roman si vous ne comprenez pas ça. Et c'est très lié au Sacré-Cœur. Alors, elle est béguine, elle devient cistercienne, elle entre au monastère de Elfta. Alors, ça va être en Allemagne, hein, je crois. Je ne sais pas très bien où c'est. Peut-être un peu au nord, je ne sais plus où c'est. Et alors là, à l'école de évidemment de Saint-Bernard. Mais il y a déjà une tradition orale, au moins chez ces religieuses, de ce qu'elle a dit de Lutgarde. Et donc on va retrouver des thèmes de Lutgarde. Et là, en fait, elle va compléter ce que disait Lutgarde, donc la réparation pour les pécheurs, avec quelque chose qui sera très développé après dans la tradition franciscaine, c'est la compassion pour Jésus. Toujours dans l'idée de l'amour qu'on rend à Jésus. C'est quoi qui connote l'amour pour amour, l'amour que je rends à Jésus? Ben, on finit par avoir compassion de Jésus. C'est vraiment étonnant, hein? C'est notre sauveur. C'est lui qui a compassion de nous, d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce que Saint Bernard l'explique. Il dit, Dieu ne peut pas pâtir, mais peut compatir. C'est-à-dire souffrir pour nous et avec nous, finalement. Ben oui, mais nous aussi, en fait, même Jésus, à la limite, quand on le voit sur la croix, on a compassion de Jésus. Alors là, c'est donc dans un des livres, donc. Enfin, oui, c'est l'espèce de révélation, de méditation qu'elle a écrite, donc La lumière de la divinité. Voilà ce qu'elle dit, Sainte Mechtilde. Ô mépris lamentable, ô douleur déplorable. Donc elle parle à Jésus, que celles qui s'abattent sur votre auguste corps et sur votre doux cœur. Oui, tiens. Maintenant que Matthieu 11 est dans la machine, doux cœur de Jésus. Aidez-moi, Seigneur bien-aimé, à supporter dans votre amour tous mes mépris et toutes mes souffrances intérieures, ainsi que vous le jugerez bon dans votre éternelle gloire, et qu'ainsi je sois toujours sainte intérieurement. Je vous prie d'accorder à tous mes sens de pouvoir sans cesse se réjouir de cette lance ensanglantée, de la plaie de votre doux cœur, et à mon âme misérable de s'y réjouir éternellement. Identification au Christ. Hein. Finalement, on est transpercé, on a le cœur transpercé comme le Christ. Et puis la dernière sainte, non, mais Marguerite Marie, du coup, je vais pas vous. Bon, Marguerite Marie, tout le monde connaît, donc je ne vais pas vous en parler. Mais je m'arrête avec Sainte Gertrude. Alors, Sainte Gertrude, c'est juste après. Je pense que Mechtilde, elle a dû être maîtresse des novices ou un truc comme ça. Donc, Gertrude, c'est vraiment une disciple. C'est Gertrude de Elfta, hein, si on a une autre. Donc toujours pareil à Elfta, donc cistercienne. Alors elle est devenue moniale à 5 ans. Fait, vous savez que c'était un peu la pratique de l'époque quand il y avait une famille nombreuse, puis on ne savait pas trop quoi faire des petits derniers, puis peut-être on se disait il n'y aura pas l'héritage, tout ça c'est compliqué, ou on en colle une partie dans les ordres. Alors les hommes, ils deviendront prêtres ou évêques, hein, c'est des familles. Et les filles au couvent, ça évitera leur trouver un mari. Donc, bon, c'était une autre culture, hein, peut-être on ne fait plus comme ça. Donc, à l'âge de 5 ans, donc cette femme, elle est entièrement. Elle a passé toute sa vie au monastère, elle vit complètement la spiritualité Bernardine, mais enfin du Sacré-Cœur, la sauce Saint-Bernard. Et cette femme, de trois saintes, c'est visiblement la plus cultivée. Parce qu'elle a été éduquée, on se retrouve dans les monastères, c'est des écoles aussi. Hein. D'ailleurs, Saint Thomas d'Aquin était à 5 ans au Mont Cassin, il était à l'école en fait. Hein. Donc elle est extrêmement cultivée, elle a lu Saint-Bernard, mais elle a lu les Pères de l'Église, elle savait écrire. Donc, ça se voit très bien dans ses écrits qu'elle est beaucoup plus théologique. Voilà. Elle est beaucoup plus réfléchie et beaucoup plus théologique. Alors, pareil, elle a des visions. Donc voilà, c'est tout. Des visions, comme nous, on va chez notre journal. Donc, ils ont des visions du Christ. Alors, elle en a une en janvier 1281 et puis une autre en mars 1289. Et ça l'amène à écrire un livre où elle vient reprendre et réfléchir à ses visions qui s'appelle Le héros de l'amour divin. Et alors là, l'étape importante avec Sainte Gertrude de Helfta, c'est que elle fait la connexion, sans doute à cause de sa culture théologique et de ce qu'elle a lu les Pères de l'Église, elle refait la connexion avec l'Eucharistie, qu'on avait au tout début, hein, puisque c'était le. Mais avec Lutgarde et Mechtilde, on était peut-être plus dans le mystique, enfin dans la prière, dans je sais pas quoi, mais là, et on avait peut-être un peu perdu de vue les sacrements. Mais on les retrouve au premier plan avec Gertrude. Et donc elle raconte ses visions, mais en décodant la liturgie. C'est assez intéressant en fait. Elle fait comme si ses visions donnaient une explication intérieure, mystique de ce qui se passe quand on à la messe. Et alors à un moment donc elle dit: Ô Dieu de ma vie, qu'il vous acclame avec joie votre très doux cœur déifié, que l'amour transperce soit. J'arrive pas à dire, pardon, que l'amour transperça pour moi dans la mort. Bon, là, on a tous les thèmes. Hein. C'est l'amour qui blesse. Qu'il vous acclame avec joie votre cœur très bon et très fidèle dans lequel la lance m'ouvrit un passage. Ça, c'est Saint Augustin avec l'Arche de Noé, afin que mon cœur pût entrer et s'y reposer. Alors, ça, c'est quoi? Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui cherchez le repos. Enfin, en quelques lignes, on a tout. Hein. Enfin, c'est incroyable. Elle a tout, elle a tout, elle a tout, elle a tout. Bon, elle coche toutes les cases. Qu'il vous acclame avec joie, votre cœur très doux, mon unique refuge dans l'exil, qui avec tant de bonté prend soin de moi et ne sera repose jamais de la soif qu'il a de moi. Hop, au passage, on interprète une des dernières paroles du Christ en croix dans Saint Jean, jusqu'au moment où il me recevra en lui-même pour toujours. Bon, alors je vais m'arrêter là, parce que ça fait plus d'1 heure que je vous cause, donc vous en avez marre. Bon, alors je vous ai quand même mis les visions, les grandes visions. Alors, avec Sainte, en fait, avec ce que fait Marguerite Marie, au fond, on peut dire qu'il y a déjà tout chez les trois saintes, là, les trois cisterciennes, donc Lutgarde, Mechtilde et Gertrude, on a déjà tout. Mais ce que fait Marguerite Marie, c'est la mission qu'elle a, elle reprend, alors il y a déjà tout, hein, elle va reprendre le thème de l'Eucharistie et de l'adoration eucharistique en particulier, elle va reprendre la réparation, c'est très fort, mais la mission propre que Marguerite Marie A, c'est de faire de l'adoration eucharistique une dévotion universelle dans l'Église, appuyée par une fête liturgique. C'est ça sa mission. Donc si vous voulez, c'est moins le contenu, parce qu'en fait, quand on regarde, tout est déjà préparé avant. En fait, c'est moins le contenu que, je dirais, l'extension et la portée du culte du Sacré-Cœur, puisque notamment, Jésus lui demande de faire. Alors, il y a la pratique de l'heure sainte, donc le premier. La nuit de jeudi à vendredi, donc l'adoration eucharistique, mais ça on l'avait déjà avec Gertrude. Enfin, pas l'heure sainte, mais l'adoration eucharistique. Mais d'avoir une messe, une fête liturgique avec une messe spéciale pour le Sacré-Cœur. Alors ça ne va pas se faire si facilement que ça, il va y avoir beaucoup d'opposition, notamment des jansénistes qui trouvent que c'est normal, hein, les jansénistes. C'est un peu des espèces de crypto-luthériens. Donc, eux, ils sont restés, donc ils ont une vision. Tous ces gens-là, c'est des gens de robe. Hein, donc, ils ont une vision très juridique. Les jansénistes, c'est tous des avocats. Hein. Ils ont une vision très juridique du salut. C'est très puissant. Il ne faut surtout pas mépriser le jansénisme. Hein. C'était les plus intelligents du XVIIe. Mais ils ont un blocage spirituel sur l'affectivité. Et donc, ils ont que mépris pour Marguerite Marie. Hein. Ils disent, mais vraiment, la pauvre fille. Alors, elle veut garder continuer à garder ses vaches. C'est nul ce qu'elle fait. Alors ça va beaucoup bloquer les choses, parce que les jansénistes, ils ont du pouvoir, en fait, hein, au XVIIe, encore au XVIIIe, même si le jansénisme du XVIIIe est un peu différent, un petit peu plus politique, disons. Mais ça va quand même être, la demande de Jésus va être honorée d'abord Pologne, c'est les évêques de Pologne qui les premiers vont faire cette fameuse messe. Alors je dois avoir la date quelque part. Donc ça s'est pas fait sans peine, hein. C'est pas Marguerite Marie, c'est pas du jour au lendemain, on dit super, 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 hein. Il y a eu beaucoup d'opposition. En 1765, seulement que les évêques polonais ont l'autorisation du Saint-Siège d'avoir la messe du cœur de Jésus. Et son extension à toute l'Église latine, donc ce qu'on a nous aujourd'hui après la. Après, donc on a dans l'ordre, on a, rappelez-moi, on a Pentecôte, après on a la fête Dieu, c'est ça? Corpus Domini, donc ça va être une semaine après. Et une semaine après, on a le Sacré-Cœur, hein, c'est dans cet ordre-là. Hein. C'est ça, hein? Eh bien, la messe du Sacré-Cœur, ça date à l'Église latine, donc universelle, ça date de 1856. C'était hier, en fait. Hein. Bon, après, j'avais prévu de vous parler des choses. Pourquoi est-ce que, y a eu comme une espèce comment dire, le culte du Sacré-Cœur qui était donc, alors, très très présent au 19e siècle, encore au début du 20e siècle, il y a comme une éclipse. Alors, il y a des raisons pour ça, mais je ne vais pas vous en parler. Allez, je m'arrête là. Vous avez des petits textes si vous voulez méditer. Donc, je vous ai mis les grandes. Marguerite Marie, vous savez, il y a trois grandes apparitions, hein, de Marguerite Marie. Alors, je vous ai mis, je ne sais plus de quelles apparitions, enfin, certainement la dernière. Hein, quand, la phrase la plus connue, c'est « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser, se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges. » Notamment eucharistique. Hein. Chez Marguerite Marie, il y a beaucoup, beaucoup l'idée qu'on répare. Alors, il n'y avait pas ça, évidemment, dans la réparation chez Lutgarde. Hein. Mais le fait que le Christ est humilié par le fait que, suite aux guerres enfin, oui, guerres de religion, puis enfin, le problème protestant, il n'est plus suffisamment honoré dans ses sacrements. On le méprise dans ses sacrements. Alors, c'est ça qu'on vient compenser en adorant le Seigneur. Puisqu'il y a des tas de gens qui ne vont plus communier, ben on compense en adorant, on ne peut pas communier à leur place, si vous voulez. Mais en fait, si, en adorant l'hostie et en priant pour les pécheurs, hop, allez, on réussit quand même à les faufiler dans le cœur ouvert de Jésus. Et puis à la fin, je vous ai mis deux extraits alors, de l'unique grand texte magistériel sur le Sacré-Cœur. On n'a pas 36 000, on a un. C'est l'encyclique de Pie XII qui s'appelle Orietis Aquas. Donc, ceux parmi vous qui sont latinistes, vous reconnaîtrez la citation d'Isaïe, hein, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Alors, ça va être Isaïe 18, bon, je ne sais plus dans quel chapitre, enfin, vous puiserez les eaux. Hein. Où est-ce qu'on les puise, les eaux du salut, exultant de joie, donc au cœur de Jésus? C'est l'encyclique de Pie XII en 1956, qui est une espèce de. Parce qu'il y a un peu une polémique à l'époque, c'est est-ce que dans le cœur de Jésus, est-ce que c'est juste l'amour humain de Jésus pour nous? Ou est-ce que l'amour du Sacré-Cœur de Jésus pour nous, c'est l'amour de Jésus en sa divinité comme en sa humanité? Et le pape tranche en disant c'est les deux amours. Allez, je m'arrête là, on va se quitter. Ouh là là, je suis désolé, j'ai cité, mais c'est une catastrophe. Bon, allez, à partir de 10 h, on prend nos adorations. On peut peut-être terminer par les complies, après tout. Et puis après, peut-être installer vos affaires. Donc, alors, suivez le guide. Alors, Anouk pour les filles et Vianney pour les garçons. Et puis, vous voulez, mais vous en avez pas ras-le-bol, non? Si vous voulez, moi ça m'est égal. Hein. De toute façon, moi je suis coincé ici pour la nuit. Hein, donc, Bon, s'il y a des questions, oui.
Quel lien?
Ah oui, complètement.
Quand elle dit, et sauf qu'en
Oui,
fait, elle
absolument.
annonce la miséricorde. Et
Oui,
donc,
oui.
est-ce que vous pouvez un peu
Je vais pas développer ça, je suis pas assez calé, mais c'est vrai parce que Glotin le dit.
quand je pense il y a des prières enfin, il y a des paroles du Christ à Sainte-Augustine qui dit, aujourd'hui, amène-moi les âmes des pécheurs et
Oui,
garde-les dans la demeure de mon cœur
oui.
très
Et puis même
compatissant.
l'image aussi. L'image de Sainte Faustine, tu sais, de Jésus avec les deux rayons, ça vient du cœur, hein. Et des plaies, oui, il y a les plaies. Mais enfin, t'as quand même les deux rayons, ils viennent des
Il y a les
plaies.
deux rayons qui viennent du
Ok. Parce
cœur.
qu'il y a plusieurs images aussi, hein. Il y en a une qui est un peu vulgarisée, mais qui n'est pas la bonne.
Et parce qu'en fait,
Oui.
La prière du début, c'est Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Ça colle, oui, ça colle
C'est
tout à fait.
exactement ça.
Ouais. Alors, je ne suis pas assez calé, malheureusement, sur la spiritualité de Sainte Faustine, mais par contre, je suis sûr que c'est vrai, parce que le père Glotin, que je vénère, qui était un brave homme, qui a beaucoup souffert, il a été rejeté. Parce qu'il, pour moi, c'est lui, c'est le seul à un moment donné où tout le monde abandonnait le Sacré-Cœur en disant c'est des vieilleries, c'est des machins. Vous savez, on avait les petites boîtes, là, les ex-voto, on voyait ça. Alors, c'était peut-être pas. Les gens avaient des goûts différents des nôtres, hein, mais on jetait le bébé avec l'eau du bain. Donc. Tout le monde se fout, alors y compris les jésuites qui avaient pourtant, avec le père Claude de la Colombière, qui a joué un rôle, mais assez mineur en fait, hein, vis-à-vis de Sainte Marguerite Marie. Il a été très peu de temps en contact, il a été utile, mais sur une très courte période auprès de Marguerite Marie. Mais vraiment, les jésuites avaient comme mission spéciale de propager la dévotion au Sacré-Cœur. Et puis, dans les années terribles, enfin, qu'ils n'ont pas quitté d'ailleurs, ils ont complètement laissé tomber ça en disant c'est des vieilleries. Mais il y a quand même quelques jésuites qui ont dit, mais non, ça fait partie de notre charisme. Alors, c'est possible qu'il y a des langages, un langage qui a vieilli, hein, ça c'est évident. Qu'il y ait des représentations artistiques, enfin, ça, on voit bien qu'il y a des trucs qui faisaient vibrer nos grands-mères, et nous on trouve ça moche. Donc je dis pas qu'il. Mais ne nous moquons pas d'elles, hein, parce que peut-être dans 20 ans ou dans 100 ans, on se moquera de nous. Hein. Mais en revanche, on voit bien ça, c'est quand même, quand je vous dis le Sacré-Cœur, c'est tout le christianisme, enfin tout y est quoi. Donc, alors, Glotin, c'est un de ceux, avec le père de Margerie, avec Hugues Hohraner, il y a quand même, puis c'était quelques jésuites, c'était pas des moindres, hein, c'était quand même des. Qui ont dit, mais non, ce qu'il faut faire, c'est un travail de je vais pas y arriver, réactualisation. Et Glotin dit, mais en fait, ce travail-là, il faut d'autant plus le faire que Dieu lui-même continue, et il se prend l'exemple de Faustine, et il a des pages, il a plein de pages sur Faustine en disant, y compris l'image, en fait, il dit, c'est peut-être cette image-là qui, de fait, semble pareil. Il y a plusieurs personnes, je ne pourrais pas vous dire le chiffre, mais c'est quand même assez répandu, la dévotion de Sœur Faustine, peut-être plus en Pologne, ça dépend peut-être, mais même en France. Hein. Il dit, mais visiblement, il y a quelque chose dans l'image même qui a été renouvelée, mais le fond est celui du Sacré-Cœur. Donc, je m'étais finalement, moi, je m'étais arrêté à Sainte Marguerite Marie, mais que je connais mal, mais peut-être je connais encore plus mal Sainte Faustine. Mais tu as raison, on pourrait dire la dernière sainte. Puis elle a eu des, enfin oui, avec tout le totem des visions et des machins. Elle n'a pas été stigmatisée quand même, Sainte Faustine, non, non. Donc ça serait Sœur Faustine. Glotin, si vous avez sur toutes ces questions-là, allez voir la Bible du cœur de Jésus. Enfin, je vous dis ça, mais le livre est introuvable, donc vous ne le trouverez pas. Mais c'est merveilleux. Mais il a écrit d'autres bouquins, alors plus courts, certains plus universitaires. La Bible du cœur de Jésus, je trouve que c'est une espèce de. C'est merveilleux parce que c'est merveilleux de pédagogie. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment un magnifique livre qui fait 800 pages quand même. Hein. Enfin, c'est une Bible, quoi. Alors, il y a vraiment tout dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, hein. Tu te grattais l'oreille, hein, c'est ça?
Est-ce qu'on peut dire que le cas de Jésus souffre encore? Est-ce qu'il y a une sorte de
Ah,
présence
ça me fait penser à la phrase de Pascal, hein.
Est-ce que souvent, bah, typiquement, les apparitions et autres, je sais pas, le cas de Jésus souffre mais il a soulevé sur la croix, et à quel point est-ce qu'il souffre encore maintenant? Et est-ce qu'il souffre jusqu'à la fin du temps?
Alors, l'Écriture sainte nous dit que Jésus est séparé des pécheurs, ça c'est l'Épître aux Hébreux, Hébreux 7, 26. Donc le Christ, c'est même ce qui qualifie la résurrection et l'ascension. Il est en son humanité, il est dans le monde de Dieu. Hein. Enfin, son humanité est glorifiée. Mais en fait, le Christ est uni à l'Église à tel point que l'Église c'est le corps du Christ. Et tant qu'il y a des chrétiens qui souffrent, alors je crois que le catéchisme de l'Église catholique, quand il s'intéresse à cette question, les premiers qu'il nomme, c'est les martyrs. Parce que tu vois, en fait, le Christ continue de vivre sa passion dans les martyrs. Mais on peut dire le Christ souffre aussi quand il y a des situations d'injustice, quand il y a enfin, des crimes. Enfin, chaque fois qu'il y a un homme qui souffre, je pense que le cœur de Jésus qui aime tous les hommes, hein, souffre. Enfin, je ne vois pas le Christ être indifférent à la misère, à la tristesse d'un enfant battu. Enfin, j'en sais rien, mais je le dis, chaque fois qu'il y a une misère, chaque fois qu'il y a un être humain qui pleure, je pense que ça n'empêche qu'il est dans cet état de béatitude, mais au fond, je te ferai la réponse de Saint Bernard, qui lui dit de Dieu, mais il dit Dieu ne souffre pas, mais il compatit. Dieu ne patit pas, mais il compatit. Alors le catéchisme de l'Église catholique la cite d'ailleurs la phrase de Pascal, hein, Christ en agonie jusqu'à la fin du monde. Donc moi je répondrais oui, je réponds c'est trop massif, à la fois dans les apparitions, et puis bah, je sais plus, enfin, tu vois, la couronne, l'apparition du Sacré-Cœur avec la couronne d'épines, enfin. Donc oui, le Christ souffre. Alors, ne dit, faut pas, méfions-nous, faut pas dire. Enfin, il est ressuscité. Hein, Saint Paul dit ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Donc, il n'est pas dans le monde des pécheurs, si vous voulez. Il n'est pas dans le monde de la mort. Il n'est pas dans le monde de la maladie qui est notre monde. Et Jésus a été dans ce monde-là. Il est à la droite de Dieu, mais intérieurement, par amour. Enfin, c'est encore la blessure d'amour, au fond. Après tout, on peut le tourner comme ça. Hein. C'est peut-être, ça fait aussi partie de la blessure d'amour. Pourquoi est-ce qu'on dit l'amour nous blesse? Alors, moi, je pense que l'amour nous blesse, il faudra aller. Mais jusque-là, c'est même dans le cas le plus favorable, où celui que j'aime est heureux, et moi-même, je suis heureux, et nous nous aimons. Ça annonce un grand roman, un grand intrigue. Hein. On sent que je vais pouvoir écrire facilement 1000 pages. Hein. Je l'aime, il m'aime et tout va bien. On sent la grande intrigue. Non, mais on ne peut pas faire un bon roman avec où tout va bien. Hein. Faut qu'il y ait... Je pense qu'il y a quand même une blessure. Mais je dirais que si on aime quelqu'un et que celui qu'on aime souffre, là on comprend mieux pourquoi c'est une blessure d'amour. Parce que si celui que j'aime souffre, quelque part je souffre aussi. Enfin, c'est même, on le voit bien d'ailleurs. Même on le demande. En fait, c'est même une demande. C'est Ratzinger qui dit ça. Il dit c'est peut-être la prière la plus authentique et la plus universelle, et qui est celle qui nous raccroche, même quand on n'est pas du tout chrétien, à la croix, c'est que quand on aime quelqu'un qui souffre, il y a une prière qui monte de nos cœurs, c'est Seigneur, si je pouvais souffrir à sa place. On est blessé d'amour. Encore une fois, hein, attention, je pense que dans la mort d'amour, c'est même. En fait, il y aurait même, je pense qu'il y a quelque chose de vrai en Dieu lui-même de cette histoire-là, mais ça nous. Donc, pour répondre à ta question, je dirais oui, mais ceux qui nous donnent les clés qu'on a pour entrer dans ce truc-là, c'est pas tellement la dogmatique qui est infiniment précieuse, mais de même que vous vous souvenez peut-être d'une homélie que j'ai faite il y a 3 heures, non, où je vous ai dit le dogme nous ouvre à la rencontre vivante avec le Christ. Moi, je dirais que les mots ou le lieu où nous éprouvons la souffrance du Christ, ça sera moins les mots du dogme. Les mots du dogme sont là justement pour disposer notre cœur à comprendre dans la prière ou autrement, j'en sais rien, enfin que le Christ souffre avec moi, enfin peine avec moi quand je peine sur le chemin de la perfection, mais il peine avec moi parce qu'il peine pour moi aussi. Il peine à ma place, c'est que quand moi je n'arrive pas à faire un maître, lui il dit bon allez, je vais quand même t'aider un petit peu parce que tu t'en sors pas, et hop, petit sprint et bouf, j'ai fait 1000 km d'un coup. Donc oui, mais c'est un thème difficile à traiter dogmatiquement, hein. C'est plus les spirituels qui seront nos maîtres dans cette question de la souffrance du ressuscité. Je pense que très vite, la théologie spéculative va tomber, va se heurter à ses limites, et que sa grandeur, c'est de les reconnaître. Sa grandeur, c'est de dire là, le concept peut nous accompagner jusque-là, mais pas plus loin. Après, on laisse la place à Lutgarde et compagnie, c'est elles qui savent mieux. Hein. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Oui, vas-y.
C'est plutôt par rapport aux apparitions. J'ai l'impression qu'il y a quand même une très grande place des apparitions
À partir du deuxième millénaire, oui.
Mais
Oui.
est-ce qu'il n'y a pas un côté qui peut être un petit peu gênant dans le sens où tout a été révélé dans le Christ et que le.
Ben, si tu veux, alors c'est vrai que c'est quelque chose. Il y a quelque chose, je dirais, de. Tu vois, pour moi, les apparitions et. Mais même, je dirais, un récit de prière, ou, enfin, sans même aller sur des phénomènes extraordinaires, quelqu'un qui nous dit, ça existe aussi, hein, des saints qui ont une expérience de Dieu très forte, et puis leur confesseur dit, mais c'est intéressant ce que vous vivez, écrivez, alors l'autre ne veut pas, mais par obéissance, il le fait, tu vois, je témoigne de ma vie avec le Christ, disons. Il y a forcément un aspect particulier. Alors c'est une limite parce qu'on peut toujours dire, mais bon, si ça concernait tout le monde, Dieu l'aurait enseigné d'une manière plus clairement universelle, c'est-à-dire dans l'Écriture sainte, à l'occasion d'une polémique, enfin dans un concile où il y aurait un dogme. Alors je reconnais ça, je pense que c'est vrai, et je dirais même que c'est pour ça aussi, à mon avis, que l'Église, quand elle reconnaît l'authenticité d'apparition, elle ne les met jamais au même statut, par exemple, que les apparitions du ressuscité aux apôtres. Ça, c'est quand même très différent, parce que ça, d'emblée, c'est toute l'Église universelle. Enfin, même l'Église, elle naît de la foi aux apparitions du ressuscité. Donc elle, en gros, l'Église nous dit, si vous vous sentez attiré par ce saint qui a, ou cette sainte qui a vu le Christ, par les paroles, c'est de la bonne camelote. Enfin, elle ne le dit pas comme ça, hein, mais ça revient à ça. Elle dit, c'est de la bonne, c'est de la bonne marchandise, allez-y. Si ça vous dit trop rien, pas grave, il y a d'autres gens à côté. Ce qui est embêtant, c'est si on dit, si tous les saints nous déplaisent, là, vraiment, il faut se poser des questions quand même. Hein. C'est qu'il y a de très fortes chances que c'est la sainteté qui nous déplaît. Et tu vois, l'Église, en gros, elle nous dit pas, surtout, 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 lisez Sainte Faustine, ou surtout, surtout, lisez Padre Pio. Mais elle nous dit, bon, ces gens-là ont une sainteté de vie, et il y a eu des apparitions, et les deux sont décorrélés, mais en même temps liés. Enfin, elle nous dit, c'est fiable, allez-y, si c'est votre miel, allez-y. Mais je trouve que justement, le Sacré-Cœur, c'est un petit peu spécial, parce que dans les apparitions, il y a eu une demande d'universalisation du truc, ce qui est très particulier, et que l'Église a fini par le reconnaître. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, ce qui donne une autorité à ces apparitions, c'est moins l'apparition en tant que telle que le fait qu'en 1856, cette fois, il y a une messe du Sacré-Cœur qui est habitée quand même par l'expérience de Sainte Marguerite Marie. Tu vois, donc je me dis, l'Église c'est un autre acte, en fait, il y a un autre acte ecclésial, et qui est plus fort que simplement quand l'Église dit, bon, ben, je sais pas, à Guadeloupe, au 17e, je crois que c'est au 17e, la Vierge est apparue, et Saint Joseph aussi, je crois d'ailleurs, aux paysans, je ne sais plus comment il s'appelait, Giuseppe, je ne sais plus comment il s'appelait les gars, mais tu vois, je trouve que c'est plus fort que ça, parce qu'il y a une messe dans l'Église catholique.
Et là, pour le coup, c'est la même chose avec la Divine Miséricorde.
Oui.
C'est le premier dimanche après Pâques,
Avec.
c'est le jour où le Christ.
Oui, ben, tu vois, moi, à mon avis, c'est aussi un peu le truc, à mon avis, c'est un peu la grâce de Jean-Paul II. Moi, c'est un peu comme ça que je comprends le ministère de Jean-Paul II, enfin, moi, en partie, c'est que c'est l'homme qui a été voulu par l'Église au moment donné, enfin, à un moment donné où ça partait quand même un peu en direct live, cette histoire-là, après Vatican II. Je trouve que Dieu, il nous a indiqué avec Jean-Paul II la bonne manière de recevoir Vatican II. Et à mon avis, le coup de Sœur Faustine, c'est justement de dire, mais il ne s'agit pas de mettre de côté, bon, d'accord, il y a des choses qui ont vieilli, je disais, mais le Sacré-Cœur, c'est du solide. Et donc, non seulement on garde la messe du Sacré-Cœur, mais même on remet une autre messe qui, au fond, est quand même un peu dans la même mouvance. Qui, alors, la messe de la Divine Miséricorde, si je me souviens bien, c'est le premier dimanche de Pâques, après Pâques, c'est ça, voilà. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc on va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il dit? C'est 9h40, hein. Et c'est quoi ta question? C'est à quelle heure est-il? Oui, très bien. C'est très juste. Oui, mais c'est très vrai. J'aurais peut-être pu le dire d'ailleurs. Tant que tu le dis, je dis, j'aurais dû le dire, mais.
Est-ce que le cœur, c'est correspond à quelque chose comme enfin dans l'âme, comme la volonté, des gens, c'est ce qu'on peut rattacher à quelque chose
Ah,
qui
alors oui, ça c'est une question intéressante, mais
Ou est-ce
justement.
que c'est quoi un symbole de.
Alors c'est un symbole, mais c'est un symbole réel. C'est-à-dire qu'il faut là, je n'ai pas le temps de le faire, mais il faudrait rapatrier. Il y a deux sources à ça. Hein. Il y a à la fois la notion biblique de cœur, lev ou levav en hébreu, mais alors là, c'est plutôt le cœur, c'est plutôt la question. Dans la Bible, c'est plutôt le lieu où l'homme entend et répond à l'appel de Dieu. Et puis, il y a toute la dimension courtoise, hein, je n'ai pas d'autres mots, parce que je pense que c'est vraiment l'origine, du cœur comme siège de l'affection, notamment de l'affection amoureuse. Alors ça, ce n'est pas du tout biblique, mais le coup de génie, enfin, pour moi, c'est le coup de génie des deux période hein, du Sacré-Cœur, hein, la période patristique, en gros, premier millénaire, on va pas chipoter. Et puis la période, alors je dirais, bon, Saint Bernard qui lance le truc, et puis après, toutes nos braves cisterciennes, là, puis Visitandine, puis Sœur Faustine, je sais même plus c'était quoi son ordre. C'est ça le nom, mais c'est une petite congrégation locale. Hein. Voilà, bon. Ça, c'est le deuxième pan, alors là, qui investit le côté affectif. Mais attention, affectif, c'est aussi encore piégé, hein, parce que affectif, au 17e, c'est moins, c'est pas uniquement le côté sentimental. Nous, affectif, on voit beaucoup le sentiment. En fait, affectif, c'est plus large que ça au 17e. Rappelez-vous que le français du 17e, c'est un piège, parce qu'il est plus proche de nous. Parfois, on a l'impression que c'est quand même assez, c'est un peu différent. Il y a quand même du ins à tire-larigot. Il y a quand même quelques mots qu'on a plus, mais c'est piégeux le 17e, le français du 17e, parce que autant l'ancien français, on comprend que dalle, en fait, on a l'impression que c'est du mauvais latin. Donc on voit bien que c'est quand même très très loin de notre français à nous. Autant le français du 17e, on a l'impression que c'est notre français, mais en fait, c'est très souvent piégeux. Il y a vraiment une évolution. Et pour affectus, c'est encore beau, assez proche au 17e de l'affectus latin, qui est en fait le fait d'être affecté. Donc c'est plus large que les sentiments. C'est comme l'émotion, hein, c'est être mis en mouvement. Nous, quand on dit les émotions, en gros, c'est les conseils psy à deux balles de faut laisser parler ses émotions, laisser parler vos émotions, sinon vous finirez par avoir un ulcère d'estomac. Enfin, c'est un peu pour moi, c'est un peu le meilleur de ce que notre culture contemporaine est capable de produire comme sagesse. C'est surtout laisser parler vos émotions. Alors, affection, c'est plus que ça. Hein. C'est plus que... Ça inclut les sentiments quand même, attention. Hein. Ça les inclut quand même. Mais ça les intègre, il y a quelque chose de plus. Alors là, voilà l'autre aspect. Donc c'est les deux fleuves, le cœur, la doctrine du cœur. Le cœur est symbole, c'est constitué comme symbole de l'amour avec ces deux facettes. Le côté réponse à un appel de Dieu, réponse d'une liberté à un appel de Dieu. Et puis le côté affectus. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est vraiment les deux aspects de la spiritualité chrétienne. Il y a le côté, tu as une mission, c'est-à-dire que tu as une tâche à remplir dans le monde. Ça, c'est le côté plutôt biblique. Mais tu as aussi le côté, j'allais dire, l'oraison, quoi. Enfin, le côté cœur à cœur, le côté douceur, enfin, la douceur de Jésus. Hein. C'est à un moment donné... Si on laisse tomber ce côté-là, il faut les deux. Si je laisse tomber l'affect, je risque de virer janséniste ou pire luthérien, enfin ou en tout cas ou puritain. Enfin, vous voyez, on a un christianisme qui finit par être qu'un truc de devoir finalement. Enfin, et c'est, paradoxalement, l'amour finit par être complètement évacué. Donc, mais si j'ai que le truc de l'affect, je risque d'avoir un truc à l'eau de rose ou un christianisme sans épines. Donc le Sacré-Cœur a ce coup de génie de rassembler le cœur biblique et le cœur courtois. Voilà, voilà,